VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir l'Afrique, les grands points de l'actualité.
Crise en Centrafrique, Bangui rejette l'accord signé entre les anti-Balaka et l'ex-coalition Seleka à Nairobi.
Cette réunion accouche d'une convention qui demande la remise en cause de la charte constitutionnelle, la remise en cause du gouvernement de la transition, l'impunité généralisée. Évidemment, c'est une mesure de déstabilisation.
Trafic de bébés au Niger, le tribunal correctionnel de Niamey s'est déclaré incompétent pour juger le dossier.
C'est la psychose à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Plusieurs enfants enlevés ont été retrouvés morts et mutilés.
Le sang a coulé dans le sud du Pakistan en pleine prière du vendredi. Un attentat fait une soixantaine de morts.
Ne manquez pas le journal de la Cannes, tout de suite après les nouvelles avec Nicolas Pinault.
Et nous aurons bien sûr notre page économie, mais d'abord, le journal.
Le président zimbabwéen Robert Mugabe, doyen des chefs d'État africains, a accédé ce vendredi à la présidence tournante de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba. Jacques Aristide nous en dit plus.
Et déjà une déclaration qui fait polémique dans la capitale éthiopienne. Il est impossible que les femmes soient égales aux hommes, a estimé le nouveau président de l'UA. Robert Mugabe a également souligné la nécessité pour tous les Africains d'empêcher les étrangers de piller les richesses naturelles du continent tout en prônant des mesures d'aide pour les paysans africains. À 90 ans, Robert Mugabe est à la tête du Zimbabwe depuis l'indépendance en 1980. Il est accusé de nombreuses violations des droits de l'homme dans son pays et fait l'objet de sanctions européennes et américaines. Pour Obed Gutu, porte-parole du parti d'opposition MDC, Robert Mugabe a détruit la démocratie et ruiné l'économie au Zimbabwe. Et d'ajouter qu'il n'a aucune légitimité politique pour présider une Union africaine qui doit prôner la démocratie et la bonne gouvernance. Pour sa part, un diplomate occidental a confié à Reuters que la communauté internationale travaillerait avec l'Union africaine, quel que soit son président.
Au Niger, le juge du tribunal correctionnel de Niamey s'est déclaré incompétent pour juger le dossier du trafic de bébés dans lequel sont impliquées plusieurs personnalités, dont Ama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Abdulrazak Idrissa.
Attendu depuis le 2 janvier, la décision du juge est tombée ce vendredi matin. Il déclare son incompétence pour connaître de l'affaire, qui est une affaire pénale et qui n'a pas été jugée au préalable en civil, puisqu'il s'agit d'une supposition d'enfant. En clair, il faut, pour qu'il puisse la juger, qu'un juge civil tranche sur la filiation des enfants avec la condition que les mères des enfants saisissent un tribunal avec les preuves qu'elles sont les vraies mères des 10 enfants. Cette décision du juge fait en fait suite aux exceptions soulevées le jour du procès par les avocats des personnes présumées coupables dans cette affaire. Il s'agit entre autres de l'ancien président de l'Assemblée nationale Hama Amadou ou encore Abdoulabo, ancien ministre d'État à l'agriculture. Après cette décision, le procureur de la République peut faire appel. Dans tous les cas, selon des spécialistes du droit, l'incompétence d'un juge pour connaître d'une affaire n'est pas synonyme de non-lieu. L'affaire des bébés importés n'est donc pas encore à son épilogue. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
République centrafricaine, des militaires français de l'opération Sangaris ont détruit jeudi soir des véhicules abandonnés par l'ex-rebelle Seleka. Ces derniers avaient menacé une délégation officielle dans le nord-est de la Centrafrique, indique l'agence France-Presse citant l'opération Sangaris. Suite à cette menace, nous avons envoyé un hélicoptère qui a effectué des tirs de sommation en avant de la colonne. Les hommes armés se sont alors dispersés, explique le conseiller en communication de la force Sangaris, Laurent Bastide.
Afrique du Sud, Eugène Kok, célèbre criminel du temps de l'apartheid, a obtenu la liberté conditionnelle. Auteur de kidnapping, de torture et d'assassinats d'opposants au régime raciste alors en vigueur en Afrique du Sud, il a déjà passé 20 ans en prison. Le ministre sud-africain de la Justice, qui a décidé sa libération, a mis en avant la réconciliation nationale.
En Égypte, nouveaux affrontements aujourd'hui entre l'armée et les djihadistes dans le Sinaï. Hier, plusieurs attaques ont fait au moins 30 morts, en majorité des soldats. Ces attaques ont été revendiquées par une branche du groupe État islamique. Nicolas Pinault.
Oui, c'est Ansar Beit al-Maqnes, le principal groupe djihadiste du pays, qui a revendiqué cette attaque en tant que branche égyptienne de l'État islamique. Malgré la campagne lancée il y a plus d'un an dans le nord du Sinaï, l'armée égyptienne n'arrive pas à stopper les attentats suicides et les tirs de roquettes. Les corps des 30 victimes des attaques de ce jeudi ont été transférés au Caire par avion militaire, mais aucun bilan exact des différentes attaques n'a été établi. Signe de la gravité de la situation, le président Abdel Fattah al-Sissi a déjà regagné le Caire après avoir assisté à la séance inaugurale du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Washington, de son côté, a condamné avec vigueur ces attaques terroristes.
Nouveau drame en Méditerranée. Au moins 6 migrants sont morts noyés suite au chavirement de leur barque. Tel est le bilan annoncé par les autorités marocaines cité par l'AFP. Plus de 20 personnes étaient à bord. L'accident s'est produit au large de Nador, ville voisine de l'enclave espagnole de Melilla.
Guinée équatoriale, 3 personnes ont été arrêtées pour avoir protesté contre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif est d'éviter le désordre, d'après le gouvernement cité par l'AFP.
Une Française condamnée à 20 ans de prison pour trafic de drogue à Maurice. Aurore Gros-Kouassi avait été arrêtée en 2011 avec des comprimés de Subutex dans ses bagages. Ce substitut à l'héroïne est en vente dans les pharmacies françaises, mais interdit à Maurice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Pakistan, un attentat perpétré en pleine prière du vendredi dans une mosquée chiite a fait au moins 61 morts dans le sud du pays, théâtre de violences intercommunautaires. Claire Morin-Gibourg.
L'attentat a été perpétré contre une mosquée chiite à Shikarpur, dans le sud du pays, à environ 500 km de Karachi. Le toit de la mosquée s'est effondré en raison de l'explosion, a confié à l'AFP un témoin, Zaïd Nour. Des centaines de personnes se sont précipitées sur les lieux pour tenter de secourir les personnes prisonnières des décombres. L'attentat a été revendiqué par le Jundula, un groupuscule peu connu gravitant dans l'orbite des talibans. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le raid des talibans pakistanais qui avait fait 150 morts le 16 décembre dernier dans une école de Peshawar dans le nord-ouest du pays. Ces dernières années, les attaques se sont multipliées contre la minorité musulmane chiite, qui représente environ 20% de la population dans ce pays majoritairement sunnite.
Les militants de l'État islamique ont tué un général de brigade et au moins 5 commandants kurdes ce vendredi près de la ville irakienne de Kirkouk. Selon les autorités irakiennes, la journée a été marquée par d'autres actes de violence, notamment à Bagdad, où une double explosion a fait au moins 8 morts et 20 blessés.
Toujours rien sur le sort de 2 otages de l'État islamique, un journaliste japonais et un pilote jordanien, un jour après l'expiration du délai pour un échange de prisonniers. Amman réclame des preuves que le pilote est encore en vie avant de libérer une Irakienne militante de l'État islamique.
En Ukraine, au moins 7 civils sont morts aujourd'hui dans des bombardements entre l'armée et les rebelles séparatistes à Donetsk. Des pourparlers prévus entre les belligérants n'ont pas pu avoir lieu. Dans les dernières 24 heures, 5 soldats ukrainiens ont été tués et 23 autres blessés, apprend-on de sources militaires à Kiev.
Barack Obama veut investir 215 millions de dollars dans une nouvelle initiative qui permettrait aux médecins d'offrir des traitements personnalisés en fonction de la constitution génétique de l'individu. Le président américain a inclus cette proposition dans son budget pour l'année 2016. L'argent serait utilisé pour la collecte de données relatives aux gènes, au mode de vie et autres facteurs chez 1 million de volontaires. L'objectif sera de déterminer comment les variantes génétiques affectent la santé et le développement des maladies. Comme pour le reste du budget, bien sûr, ce projet doit d'abord recevoir l'aval du Congrès, où les Républicains, adversaires d'Obama, sont en majorité.
Présidentielle 2016 aux États-Unis, Mitt Romney a mis fin au suspense aujourd'hui, annonçant qu'il ne se portera pas candidat. L'ancien gouverneur républicain du Massachusetts, battu par John McCain en 2008 pour la nomination et par Barack Obama à l'élection de 2012, avait perdu le soutien de plusieurs anciens partisans et donateurs qui ont choisi d'appuyer l'éventuelle candidature de Jeb Bush, jeune frère de l'ex-président George W. Bush. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la Cannes avec Nicolas Pineau.
Bienvenue à la cantine, bienvenue dans Bolo.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique, J-1 avant le derby congolais en quart de finale du tournoi. La pression monte. À Bata auront lieu demain les deux premiers quarts de finale. Dans le derby congolo-congolais, Diable Rouge et Léopard s'affronteront à 16h, temps universel. On est sûr d'avoir un Congo en demi-finale et on aimerait que ce soit nous, a résumé le sélectionneur du Congo, Claude Leroy, à propos de ce match entre pays homonymes et voisins. Les Diables Rouges sont la seule équipe qualifiée, comptant 7 points et ont donc un léger ascendant sur les Léopards de Florent Ibengué qui se sont qualifiés avec 3 matchs nuls. Mais les Congolais voudront faire plaisir à tous leurs supporters restés à Kinshasa. Les dernières infos sur la sélection de RDC avec Thierry Kambundi à Bata.
Décidé à l'emporter en quart de finale ce samedi face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville, les Léopards de la RDC ont travaillé d'arrache-pied depuis mardi. Les joueurs de Florent Ibengué sont conscients de l'enjeu de ce match qui va au-delà du simple ticket pour les demi-finales. Youssouf Mouloumbou est le capitaine des Léopards.
C'est un grand derby et il faut qu'on montre que nous sommes le grand Congo. On a besoin d'aller en demi-finale déjà. On ne peut pas perdre contre le petit frère. Comme on dit chez nous, petit frère bête à Mkolota, donc c'est ce qui va se passer.
La concentration était au maximum ce vendredi dans leur hôtel. Chancel Mbemba, milieu de terrain des Léopards de la RDC, appelle la population de son pays à les accompagner par leurs prières.
Nous-mêmes, on est conscients, on travaille au fond pour prendre les 3 points capitales du match de Congo-Brazzaville. Je vais demander à tous les peuples congolais.
Notez qu'il s'agira de la 4e confrontation entre les deux nations voisines en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour l'instant, les RD Congolais comptent 2 victoires contre une seule pour les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Bata, Thierry Kambundi de Top Congo pour VOA Afrique.
Et après ce derby congolais, un autre quart de finale se jouera samedi à 19h, temps universel à Bata. Le Nzalang National, devant ses supporters, affrontera les Aigles de Carthage. Sur le papier, la Tunisie est favorite. Georges Likens, le sélectionneur, a loué en conférence de presse le bon esprit et la discipline de son équipe. Le Belge se méfie pourtant de l'arbitrage. Mais attention, face à cette équipe, la Guinée équatoriale voudra réaliser l'exploit de parvenir en demi-finale de sa CAN. Retour sur cette surprenante équipe équato-guinéenne avec Jules Valentin Gouet dans son coup de sifflet.
Bonsoir. La sagesse populaire le rappelle, l'appétit vient en mangeant. Voilà la Guinée équatoriale, l'invité de dernière minute, le petit pousset absolu du tournoi, devenu le porte-flambeau inattendu du football de la CEMAC et de l'Afrique centrale, avec la complicité indirecte du Cameroun et du Gabon, jugé trop suffisant. Pourtant, en début de compétition, les seuls défis, et pas des moindres, auxquels le pays hôte avait à faire face, était d'abord celui de l'organisation, ensuite le défi sportif d'être capable de présenter, dans un court délai, une sélection pouvant se hisser à la hauteur de ses adversaires de poule. Le moins qu'on puisse dire, à mi-parcours, est que ses objectifs sont d'ores et déjà dépassés. Sur le plan sportif, la Guinée a eu la sagesse de revêtir à tous ses matchs le statut modeste d'outsider, venu limiter les dégâts, mais prêt à profiter de la moindre occasion pour réaliser l'impensable. Elle y est parvenue en se quittant la première en quart de finale. Mais face à la Tunisie dimanche, la formule ne passe plus. Le Zalam national ne pourra plus porter le costume de mer grand. Le loup devra sortir des bois et assumer son rôle de pays haute cour avec la pression qui l'accompagne. La véritable question est de savoir comment la Guinée équatoriale va assumer cette nouvelle responsabilité. À bientôt.
Merci Jules. Et à suivre dimanche, Algérie-Côte d'Ivoire et Ghana-Guinée. Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN. On vous donne rendez-vous à 19h, temps universel, pour un Sporama spécial Coupe d'Afrique des Nations. Pour en parler, composez le 001 202 619 3140. Bagassikoura répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup.
Ne manquez pas ce rendez-vous avec Bagassikoura. Mais en attendant, disons merci Morgane Guériac à Nicolas Pinault pour ce journal de la CAN. Une compétition très intéressante. Et allez, Sili National de Guinée, on n'aime pas la qualification, la façon dont ça a été fait. Mais quand même, bravo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Pour la Minute Éco, Jean-Roger Billon nous rejoint en studio. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Vivo Energy lance un plan d'investissement de 100 millions de dollars au Maroc.
Selon le magazine Jeune Afrique, cet argent va servir à élargir son réseau de distribution et achever l'extension de son usine de Casablanca créée en 2011 pour distribuer les carburants et lubrifiants Shell. Vivo Energy est présent dans 16 pays africains. Elle est co-détenue par le géant du négoce basé en Suisse, Vitol, et le fonds d'investissement panafricain Helios Investment Partner.
Ici aux États-Unis, la croissance du PIB ralentit à 2,6% au quatrième trimestre.
La croissance de l'économie des États-Unis a progressé moins que prévu. Cela est dû à l'effet conjugué, selon le ministère du Commerce, des bas prix de l'énergie, de l'appréciation du dollar, de la conjoncture mondiale, une donne qui affecte les entreprises et le commerce extérieur, même si la consommation s'est bien comportée.
Lancement de la semaine content, pas content, remettre l'économie à sa place.
C'est juste un jeu de mots pour un forum qui se veut atypique, Morgan, sur les notions de croissance et d'économie. Il est organisé à Grenoble, en France, par l'ONG CCDF, Terre Solidaire, pendant une semaine à compter de demain, samedi, jusqu'au 7 février. Le public va essayer de réinterroger les critères de richesse et de bien-être.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon. Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie pour cette édition du vendredi 30 janvier 2015. Les dossiers du jour.
Politique centrafricaine, Bangui rejette l'accord de Nairobi signé entre les anti-Balaka et l'ex-coalition Seleka qui prévoit entre autres la mise en place d'une troisième transition. Pour les autorités de la transition actuelle, le forum inclusif de Bangui en cours est primordial. Aussi, toute décision prise à l'étranger est-elle nulle et sans effet. Écoutons la porte-parole de la présidence de la République centrafricaine, Antoinette Montaigne.
Le gouvernement centrafricain n'a pas été informé de l'initiative de Nairobi, ni n'a été invité à y participer. La position de la présidence de la transition et tout le gouvernement est claire. Nous avons accepté, dans le processus, ce qui nous a conduit à Brazzaville, de cesser les hostilités entre tous les Centrafricains et de privilégier la voie de discussion et de négociation pour aboutir à la paix durable. Les signataires de Brazzaville, malheureusement, en revenant, ont renié leur signature dans les 48 heures en maintenant des activités armées qui ont été meurtrières pour la population. À partir de Brazzaville, il n'y a plus de processus possible à l'étranger parce qu'on voulait tirer les leçons du fait que en allant signer les accords facilement à l'étranger, les protagonistes ne sont pas en mesure d'échanger avec l'ensemble de la communauté nationale qui est toujours frustrée de ne pas comprendre pourquoi à chaque fois on prend le pouvoir par les armes en Centrafrique et à chaque fois c'est la population civile qui en fait les frais.
Madame, pour parler encore de la réunion de Nairobi, vous confirmez la déclaration du gouvernement selon laquelle cette réunion est un plan de déstabilisation de la transition en cours?
Du moment où cette réunion accouche d'une convention qui demande la remise en cause de la charte constitutionnelle, la remise en cause du gouvernement de la transition, l'impunité généralisée, évidemment, c'est une mesure de déstabilisation. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'accepter ce qui est proposé à Nairobi. D'ailleurs, le chef de la transition a fait une déclaration, la présidente de la République a fait une déclaration pour dire non à un processus parallèle à celui qui est en cours et a demandé de revenir dans le processus qui est né à Brazzaville et qui se poursuit.
Le forum de Bangui à venir verra-t-il la participation de Dotto Diaye et François Bozizé?
C'est à eux de voir en tant que Centrafricains quel est leur rôle dans la crise, puisqu'ils ont revendiqué l'autorité au moins morale sur les groupes armés, les deux groupes armés les plus importants qui existent dans le pays. C'est à eux de se déterminer quant à leur participation. Et je pense que la communauté internationale est témoin. Le peuple a besoin de comprendre pourquoi, depuis quelques décennies, on prend le pouvoir par les armes tout le temps en République centrafricaine, que ce sont les populations qui en pâtissent. Cette population a envie de savoir qu'est-ce qui fait cela et pourquoi on veut continuer.
La porte-parole de la présidence de la République centrafricaine, Antoinette Montaigne, jointe par Félix Yepassis Zembro.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
En Côte d'Ivoire, la police a appelé à ne pas lyncher les suspects d'enlèvement d'enfants. Une série d'assassinats d'enfants a créé la psychose dans le pays. Idriss Fall a joint Madame Rachel Gogoua de l'ONG Enfants, Femmes et Familles à Abidjan.
Selon la police, 25 enfants ont été enlevés. Ces enfants n'ont pas été retrouvés vivants. On les a retrouvés morts et mutilés. C'est une psychose totale. Ça, c'est les chiffres. Des enfants qui ont pu être répertoriés, mais il y a des cas qui n'ont pas été répertoriés. Et il y a eu des tentatives d'enlèvement aussi, où d'autres ont pu s'échapper, d'autres ont été blessés. C'est la psychose. Au point que bon nombre de parents ont enlevé les enfants des écoles, un certain nombre de responsables d'école ont aussi fermé les écoles hier et aujourd'hui, par exemple.
La police fait des progrès dans les recherches ou bien?
Voilà, quand moi je fais mon analyse, voilà le schéma. Deux raisons principales poussent les gens à faire ces actes. C'est la lutte effrénée pour accéder au pouvoir politique et de le conserver. Et la deuxième raison, c'est l'enrichissement à tout prix. Donc, qui sont ces gens qui font ça? Moi, je les appelle les commanditaires, je les appelle les malades. Ces commanditaires sont des hommes ou des femmes politiques de tous bords. Des gens qui veulent accéder au pouvoir ou qui veulent le conserver à tout prix. Et il y a les hommes et les femmes d'affaires, et il y a les oisifs du fait du chômage, et il y a les autres pauvres. Maintenant, quels sont les autres acteurs? Les prescripteurs que j'appelle, qu'on peut comparer aux médecins, sont les marabouts, les féticheurs, les mystiques. Maintenant, il y a les punisseurs que j'appelle les exécutants qui jouent le rôle de pharmaciens. Ça veut dire le commanditaire qui est malade va voir un marabout. Ces gens-là leur disent, moi, pour que je puisse faire un travail pour toi, il faut que tu m'envoies des produits humains. C'est le sang, les organes génitaux, le cœur, le foie, le poumon, les yeux, les oreilles, la langue, etc. Alors, ces fournisseurs-là, ces gens que j'appelle les pharmaciens, c'est eux qui s'en vont maintenant dans la ville pour attraper les gens et ils prennent les produits humains pour venir livrer aux commanditaires qui les prend pour venir les donner aux prescripteurs que sont les marabouts.
Tout ceci sur fond de superstitions, de croyances, en fait. Parce qu'on se rappelle aussi, il y a quelques années, il y avait des gens qui ont été lynchés à Abidjan, brûlés vivants, parce qu'on les soupçonnait d'être des sorciers, des voleurs de sexe, on les appelait à l'époque.
Oui, bien sûr, ça se produit encore. Tous les gens ont dit qu'ils sont sorciers, c'est une histoire de croyance. Mais des fois aussi, les soi-disant sorciers, ça peut être une croyance, mais ça peut être le fait que la personne lui-même pose des actes qui poussent les gens à croire véritablement que c'est vrai, ils jouent ce rôle-là. Oui, les gens croient qu'en allant voir ces gens, leur situation peut changer et ça les pousse à commettre l'irréparable. Ce sont des crimes, c'est tout simplement des crimes.
Voilà, c'était Rachel Gogoua de l'ONG Enfants, Femmes et Familles à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Écoutez ça, Morgane, il est impossible que les femmes soient égales aux hommes. Elles se marient, elles doivent avoir des bébés, doivent vivre à domicile, c'est un problème. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit.
Non, c'est l'une des premières déclarations controversées, nous vous le disions un peu plus tôt, de Robert Mugabe à Addis Abeba, où le chef de l'État zimbabwéen a pris ce vendredi la tête de l'Union africaine. Le débat fait rage déjà, nous dit Jacques Aristide.
Les propos de Robert Mugabe tombent à l'heure où les dirigeants africains se penchent justement sur la question de l'émancipation de la femme africaine à l'occasion de leur sommet de 2 jours dans la capitale éthiopienne. Sandra Nyara du service zimbabwéen de la VOA a demandé au président Mugabe d'expliquer exactement ce qu'il entendait par sa déclaration qui n'a pas manqué de choquer plus d'un.
Il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas facile pour les femmes. Elles se marient, elles doivent avoir des bébés, elles doivent rester à la maison, c'est un problème. Je veux dire, ce n'est pas possible pour les femmes de pouvoir être égales aux hommes. Vous voyez, nous les hommes, nous voulons des enfants. Nous rendons les mêmes femmes que nous voulons mettre au pouvoir enceintes. Vous comprenez? Alors que nous les hommes, nous sommes toujours là. Ça, ce n'est pas possible. Rien que cet aspect-là.
That aspect only.
des commentaires qui font surgir d'autres interrogations. L'homme de 90 ans se lamente-t-il de l'inégalité homme-femme qui perdure, ou exhorte-t-il à un changement de la situation, ou encore croit-il que cela fait partie de l'ordre naturel des choses ? Robert Mugabe n'est pas à sa première polémique sur les femmes. En 2013, il avait traité ses ennemis politiques de simples femmes. Mais davantage de confusion, le chef de l'État zimbabwéen a dit prôner l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, voire de meilleures prestations de maternité.
Elles doivent recevoir un salaire pendant toute la période de grossesse. Les entreprises ou le gouvernement ne peuvent pas dire « Ha ha ha, nous allons seulement vous payer 3 mois ». Ça doit être pour tous les 9 mois.
En réaction, l'avocate zimbabwéenne des droits humains, Béatrice Mtuetwa, n'a pas pu s'empêcher de rire. De Harare, elle s'est confiée à la VOA via Skype.
Il m'est impossible de croire que le président ait pu dire quelque chose comme ça. Je veux dire, on veut se moquer de moi ? Quoi ? C'est incroyable ! Car en 2013, il a lui-même inclus une clause dans la Constitution pour essentiellement donner tous les pouvoirs possibles aux femmes du Zimbabwe et faire qu'elles soient égales aux hommes.
Béatrice Mtuetwa est aussi d'avis que si le nouveau patron de l'Union africaine voulait délibérément dénigrer les femmes, eh bien, dit-elle, il a par la même occasion disqualifié la personne qui est donnée comme son successeur, sa propre épouse.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés entre 20h et 21h, temps universel, dans RM Show. Nous allons décoller avec de la bonne musique des îles. Soca, reggae, ragamuffin, reggaeton, zouk love, aïe aïe aïe. Nous aurons comme invité spécial l'artiste congolais Fabregas, a.k.a. Yamado. Les amis, n'oubliez pas aussi que nous parlons démocratie cette semaine. Continuez à nous envoyer vos commentaires sur notre groupe Facebook. Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Appelez-nous aujourd'hui entre 20h et 21h temps universel au 001-202-619-3140. Je répète, 001-202-619-3140. Je ne peux que vous dire, hey, peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Trafic de bébés au Niger, le tribunal correctionnel de Niamey s'est déclaré incompétent pour juger le dossier. Plusieurs personnalités, dont Ama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, sont impliquées.
Crise en Centrafrique, Bangui rejette l'accord signé entre les anti-Balaka et l'ex-coalition Seleka à Nairobi. Un texte qui prévoit entre autres la mise en place d'une troisième transition.
En Égypte, nouveaux affrontements aujourd'hui entre l'armée et des djihadistes dans le Sinaï.
Au Pakistan, un attentat perpétré en pleine prière du vendredi dans une mosquée chiite a fait au moins 61 morts dans le sud du pays, théâtre depuis plus d'un an de violences communautaires.
Violence en Irak, l'État islamique a tué un général de brigade et au moins 5 combattants kurdes près de Kirkouk. 2 explosions font 8 morts et 20 blessés à Bagdad.
En Ukraine, au moins 7 civils sont morts aujourd'hui dans des bombardements entre l'armée et les rebelles séparatistes à Donetsk.
30 degrés centigrades à Niamey. Ici à Washington, on a une très bonne température, Morgane. 6 degrés centigrades comparativement à hier, en tout cas.
Oui, c'est pas mal. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma. Présentation, Morgane Guiriec.
Et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Vous nous retrouvez sur Facebook.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.